Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours d'Ayo. Depuis son enfance compliquée mais enchantée par l'envie déjà de devenir chanteuse, jusqu'à la sortie du titre Down on My Knees qu'il a révélé au grand public, on retrace ensemble ce long périple qui l'a amené jusqu'à ce nouvel album qui s'appelle Royal et qui est sorti il y a quelques semaines. Un grand merci à elle pour sa disponibilité mais aussi d'avoir fait l'effort de faire cette interview en français. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de Succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à suivre Histoire de Succès toutes les semaines. Et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire du Succès. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie d'Ayo. On est avec Ayo. Salut Ayo.
Salut.
Ça va?
Ça va bien, merci.
Merci beaucoup Ayo de venir dans mon podcast. Ça me fait plaisir.
Merci de m'inviter.
Ayo, tu sors un nouvel album qui est sorti ces jours-ci là. On va parler un petit peu avec toi de ton histoire. La question que j'aime poser à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Ayo quand elle avait 7 ou 8 ans?
Oh, à ma fille.
c'est vrai que...
qui est là sur, ouais. Sur le sofa.
Tu lisais Ernest Hemingway comme elle?
Ouais. Non, pas vraiment. Parce que mon père, ni ma mère, ils sont me forcés de. Okay. Moi, je le fais parce que je vais pas avoir des problèmes avec son père. Donc, il faut qu'elle lit.
Okay.
Mais en plus, c'est Ernest Hemingway. C'est Ernest Hemingway parce que j'avais pas. Elle a déjà lu d'autres livres que j'avais avec moi.
Ouais.
Et je trouve que cet livre, un enfant peut le lire aussi parce que c'est tellement joli. Et elle peut imaginer l'histoire parce qu'Ernest Hemingway, il était fort, très très fort.
Bon alors, à quoi tu ressemblais alors quand tu avais 7 ou 8 ans? Parce que ta fille, les gens ne vont pas trop savoir, ils l'ont pas vu.
Oui, c'est vrai. Je peux dire que j'avais une dent cassée. Okay. À cet âge, comment on dit cette dent-là?
L'incisive.
Oui.
Ouais.
Qui était totalement cassée, donc c'était juste moitié.
T'étais tombée?
Ouais. À l'école, parce que moi j'étais toujours la fille qui courir et j'ai couru comme une folle.
Okay.
Et à un moment je suis tombée et j'ai cassé cette dent et je l'ai laissée comme ça pendant très longtemps. Donc tous les gens qui m'ont connue à cette époque. J'étais toujours la fille avec
la dent.
Ouais, exactement.
Mais parce que c'était plus tes dents d'enfant, c'est ça? C'était déjà ta dent.
C'était déjà, exactement.
Oh là là.
Ouais.
Et alors, est-ce que tu étais déjà artiste quand tu étais petite?
Oui, sur une façon. Moi, je crois que tous les enfants sont des artistes parce que on a tous envie et besoin de nous exprimer. Et je crois que c'est ça l'art. L'art, c'est vraiment l'expression. Mais il y a des enfants qui sont beaucoup plus, introvertifs et il y a d'autres enfants qui sont plus extrovertifs. Moi, j'étais entre les deux. J'étais un peu bizarre comme enfant. Je peux dire que j'étais la fille qui, en été, je suis allée à l'école avec des vêtements un peu hiver. Et en hiver, je portais pas des chaussettes et très léger et parfois les éducateurs les profs ils sont rappelé mon père pour lui dire que c'est pas normal que je vienne pas avec tes chaussettes et tout ça à l'école. Mais il avait une histoire que j'aimais pas du tout. Les chaussettes, j'aimais pas les vêtements en dessous, qu'on porte en dessous,
les sous-vêtements, c'est ça?
Oui, les sous-vêtements, j'aimais pas du tout. Ça, okay. Ça m'a rentré folle, j'aimais pas du tout.
Mais ça devient d'où?
Je sais pas, je sais vraiment pas. C'était vraiment un truc, et encore aujourd'hui, j'ai un problème avec, quand il fait froid, il faut vraiment porter des, ouais. Des collants. Et ça, j'ai encore ce truc, je l'ai fait quand il fait très froid, mais j'aime pas du tout. Oh, ça me donne un sentiment, je peux pas expliquer. C'est horrible.
Tu te sens enfermé, c'est ça?
Ouais, je sais pas. J'aime pas ce sentiment. Oh, c'est bizarre. Et je crois que j'aime bien la liberté. Ouais. J'aime bien quand ça respire et tout. C'est pour ça que je comprends mon petit, mon dernier né, qui a bientôt 3 ans. Je comprends pourquoi il aime bien être nu toute la journée. Moi, je suis pas aussi libre, mais je comprends.
Mais parce que t'as grandi aussi, tes parents te laissaient vivre ta vie, t'étais toute nue quand t'étais petite, c'est ça?
Quand j'étais petite, en fait, oui et non.
Parce que t'es née en Allemagne,
c'est ça? En Allemagne, exactement. Et je peux dire que moi, mon enfance, c'était un peu... En fait, mon papa, il était à un moment, il était seul avec 4 enfants.
Okay.
Et mon frère, mon grand frère, il était déjà assez âgé à un moment, il était avec ses amis et tout. Mais mon enfance, c'était très turbulente, en fait. Mais j'ai plein de mémoires magnifiques, mais il y a aussi des mémoires... aujourd'hui, je peux dire, c'est des mémoires qui me font rigoler. C'est vraiment drôle, je trouve. Mais il y a des gens... Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rigoler trop parce que c'est quand même un peu triste aussi.
Okay.
Mais par exemple, mon papa était seul avec nous 4 parce que ma maman, elle n'était plus là. En fait, on ne savait pas où elle était parce qu'elle a pris des drogues et elle est tombée dans l'héroïne quand j'avais 5 ans. Et à un moment, c'était mon père qui doit me préparer pour l'école et tout. Et moi... à 6 ans, j'étais tellement difficile, je suis devenue un peu difficile. Normalement, j'étais toujours très facile, mais là, j'aimais pas tous les vêtements. En fait, j'étais très compliquée. J'avais un goût très spécial et j'avais cette robe que je voulais porter toujours. Et si c'était pas cette robe, c'était une tutu.
Okay.
Et donc, je suis partie à l'école avec une tutu. Et à un moment, mon papa, il m'a laissée parce que c'était trop pour lui de s'occuper de tout ça. Et quand il m'a mis des vêtements que j'aimais pas, j'ai enlevé des vêtements et j'ai fait la crise devant lui par terre. Je me mis par terre et j'ai crié et j'ai poussé toujours mes comment on dit ça the veins
les veines
et oui les veines. Ouais. J'ai poussé mes veines, ma tête est devenue rouge et j'ai crié. Et donc c'était un peu moi à 6 ans, ouais.
Okay.
Donc c'était pas toujours facile, mais ça pour la liberté, je peux dire oui. Dans les moments où je voulais pas porter l'événement que mon papa m'a donné, j'ai cherché de me libérer, quoi.
Et en même temps, j'imagine que pour une petite fille, de pas avoir sa maman, ça doit pas forcément être une chose facile à vivre, quoi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait de la colère.
Je crois que c'était ça. Moi aujourd'hui, je crois surtout la colère est venue de ça, et aussi parce que c'était ma mère qui savait qu'est-ce que je veux porter? Elle savait tous. Et à un moment, oui, elle n'était pas là. C'était pas facile. Mais j'avais la chance quand même parce que j'avais aussi ma sœur et mes 2 frères. Donc ça, pour moi, aujourd'hui, je peux dire que, heureusement, j'étais pas un enfant seul.
C'est quoi ta relation avec tes frères et sœurs?
Et ma sœur, ma grand-sœur et mes grands frères, pour
c'était
moi...
C'était la dernière, c'est ça?
Oui, j'ai la dernière, okay. Ouais. Mais on est très proches. En fait, c'était 1 an, 2 ans. Mon frère, d'abord, mon plus grand frère, il est 7 ans plus âgé que moi, 8 ans, je crois. Ma sœur, 2 ans et demi plus âgé que moi, et mon frère, 1 an. Okay. Donc, assez proches.
Très rapprochés.
Ouais, très rapprochés. Et... on était toujours ensemble, parce que à un moment on était séparés de mon père aussi, de mon papa et ma mère. On est partis dans un orphelinat.
Okay.
Et là j'étais avec ma sœur et mon frère. Mon plus grand frère, il n'était pas là parce qu'il pourrait rester à la maison et tout. Mais nous, on est partis et c'est pour ça que je crois que j'avais toujours une bonne relation avec comment je dis ça ?
Frères et sœurs.
Mes frères et sœurs, ouais. C'était, on a plein de mémoires de nos enfances qu'on partage, vraiment partage. Que pour moi, j'ai que des bons souvenirs. Bien sûr, ma sœur et moi, à un moment, c'est normal, je crois, entre des sœurs, parfois, il y a tellement de problèmes à un moment, c'est tout ce qu'on peut savoir. Je sais pas, ma sœur, par exemple, quand j'avais 16 ans ou 15 ans, ma sœur, elle m'a dit, tu vas jamais réussir, tu vas jamais chanter, jamais. Donc, c'est des choses.
Pas sympa.
Non, elle était pas sympa du tout à cet moment-là. Mais après, ça a changé aussi. Après, c'était quand même elle qui est venue aussi me voir au concert et, après, c'est elle qui m'appelle et qui me dit, ça c'est mon chanson préférée de toi et tout. Donc, tout change à un moment.
Tu disais que quand tu avais 15-16 ans, tu voulais déjà chanter ? C'était ton
but ?
Ah
oui.
Depuis quel âge ?
Je chantais déjà. Je crois que je voulais... Je peux vraiment dire que je ne me souviens pas d'un temps dans ma vie où je ne voulais pas chanter. Je savais que je voulais devenir chanteuse.
Et... Même quand tu avais 6 ans, 7 ans voilà.
Oui,
okay.
Parce que ça commençait... En fait, j'ai vu une vinyle. Mon papa, il avait beaucoup de vinyles. Parce qu'il est...
De vinyle.
Oh là là, vinyle.
Vinyle, ça veut dire...
Vinyle, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire live.
Des vinyles. Des disques.
Des disques
à la façon 70, à l'année 80, parce que des CD, c'était pas encore là.
Ouais.
Donc, j'ai vu une vinyle de Diana Ross.
Ok.
Et c'était là, à partir de ça, j'ai pensé que je dois être chanteuse.
Ok.
Je sais pas, c'était... Et j'aimais toujours la musique, toujours.
Okay.
Les instruments, pour moi, c'était comme des jeux.
T'as appris la guitare toute seule alors, c'est ça ? Ou alors t'as pris des cours ?
J'ai jamais eu des cours de guitare.
Ok.
Ouais, jamais.
T'as appris comment ? Parce qu'il n'y avait pas YouTube à l'époque, il n'y avait pas les tutos.
Non. En fait, j'ai commencé à jouer la guitare très tard.
Ok.
Très tard. D'abord, j'ai joué le piano, la violine, la flûte, mais je ne suis pas sûre si ça c'est un instrument.
Oh !
Non.
Il y a tous les joueurs
attends,
de flûte.
Non. Bien sûr, c'est un instrument incroyable, mais quand on sait jouer la flûte, ça devient une autre chose. Mais moi, ce n'était pas la flûte, comme c'était pas la, comment on dit la flûte ?
Ah, la flûte traversière.
Traversière, c'est joli. Ouais. C'est un de mes instruments préférés.
Les flûtes à bec, là. Quoi.
Oui, exactement. Les flûtes normales, quoi. Ouais. Quand, je ne sais pas.
Quand on joue à l'école.
C'était exactement ça. Et je me souviens des sons. Là, j'avais des leçons pour la flûte.
Ouais, bah oui.
Avec tonton Vili, c'était son nom.
Okay.
Et je me souviens comment il a tapé la rythmique sur la table. Et c'était comme si son doigt était du bois, quoi.
Oui.
C'était tac, tac, tac. Et il avait une jambe au bois.
Ok.
Ouais. Et c'était un monsieur assez vieux. Ça, c'était quand j'étais dans l'orphelinat.
D'accord.
Et donc, la musique, c'était toujours quelque chose. Ça avait une grande présence dans ma vie.
Mais t'as appris le piano toute seule ? T'as appris le violon ?
Piano, j'avais des leçons.
Ok. D'accord.
Piano, violon, leçons aussi.
Ok.
Mais guitare, jamais. Okay. En fait, j'avais.
Tu savais déjà jouer de la musique, en fait ?
Ouais, je savais déjà jouer de la musique. Mais à 20 ans, j'ai appris la guitare. À 20 ans, donc c'est assez tard.
Mais pourquoi pas avant alors ?
Même 19. 19 ans, 20 ans.
Ok. Mais pourquoi pas avant ?
J'avais toujours une guitare avant, une petite. Mais j'ai joué un peu. Je savais déjà quelques cordes, mais j'ai pas vraiment joué. Et à un moment, j'avais envie d'avoir la possibilité de me accompagner toute seule. Et c'est là où j'ai appris encore plus. J'ai vraiment joué. Et il y a une histoire marrant. J'étais avec un ami à moi, à l'époque, à Paris. J'avais 20 ans. Et j'étais dans les rues. Ah bah, c'était la Châtelet-Léal.
Ouais.
Il y a la passage juste à côté de Montorgueil.
Ouais.
Et là, je me mis par terre et j'ai joué la guitare et les gens sont me regardés comme « Ah, ok, elle va jouer quelque chose. » Mais je jouais pas bien du tout.
Okay.
Mais ça m'a donné tellement de pression que j'avais l'impression que je jouais mieux. Et donc, c'était comme ça que j'ai joué parce que je me dis, OK, il faut jouer quelque chose. Les gens sont en train de me regarder. Donc, j'ai vraiment commencé là de jouer vraiment la guitare.
Pourquoi tu t'es mis dans une rue comme ça pour jouer de la guitare?
On était jeunes. On avait rien à faire 7 jours et j'avais ma guitare avec moi parce que j'ai commencé de voyager toujours avec ma guitare pour vraiment apprendre. Et je crois que c'est ça l'histoire qui est jolie avec une guitare. C'est ça devient notre compagnon. Mm. C'est vraiment ça.
Tu peux le balader plus qu'un piano, a priori. Et
heureusement, oui, oui. C'est pour ça aussi.
C'est plus simple.
Mais il y a comment on dit ça, the mouth piano?
Ah,
le piano façon flûte.
Ah ouais?
Oui.
Ah oui, oui, oui. C'est quoi? Il y a plein de funk, c'est ça? Oui,
ouais, exactement, ouais, ouais.
Qui se joue avec ça.
Mais, ouais, ouais, mais je trouve que c'est peut-être un peu ridicule. Et en plus, je ne peux pas chanter en même temps. Donc.
Non, tu ne peux pas, oui, c'est sûr.
Non. Peut-être je peux. Mais il faut être vraiment fort.
Ventriloque.
Exactement.
Chanter sur le côté comme ça. Tu fais un chanter comme ça et après tu souffles de l'autre côté. C'est impossible à faire.
Je crois que tout est possible. Mais je ne suis pas sûre si j'ai le temps pour essayer. Je crois peut-être 3 ans, 4 ans après, je peux. Peut-être je vais réussir de chanter une chanson et jouer en même temps.
Comment tu en viens de te dire OK, donc je sais jouer de la musique, etc. Et en fait, je veux devenir chanteuse et après d'avoir la possibilité de faire ton premier album. C'est quoi le chemin?
Ah, c'est intéressant parce qu'en fait, je crois que le chemin, c'est vraiment pas. C'est un chemin où on n'a même pas fait des choix, quoi. On n'a pas choisi. C'est vraiment le destin. Moi, je crois beaucoup au destin.
Ouais.
C'est d'être à certains endroits, au bon moment. Et c'est la vie qui te donne des signes que tu es sur le bon chemin et tu dois rester sur ce chemin. Par exemple, mon papa, il voulait toujours que j'ai fait les études parce que de côté de mon papa, ils sont tous fait les études, ils sont tous des ingénieurs et,
ouais.
Et je sais pas quoi, mais tous, ils sont tous allés sur une université et tout. Et moi, j'ai dit toujours à mon papa, j'ai pas envie de faire les études parce que je sais pas.
Je n'aime pas porter des chaussettes, c'est pour ça.
Exactement.
Il faut me laisser libre.
Il faut me laisser libre, exactement. Et donc, je dis, non, j'ai envie de chanter. Et à cette époque, je pensais qu'on ne peut pas étudier la musique. On peut pas, Pour moi, c'était quelque chose qu'il faut sentir et pas quelque chose qui est dans les théories. Hein. C'était bizarre pour moi. Mm. Donc, mon papa, en fait, il voulait quand même que je fasse les études. Et un jour, j'ai décidé de chanter pour lui. J'ai invité un ami à moi avec qui j'ai chanté. Et j'ai chanté pour mon père. Et c'est là où il a dit, tu sais, je crois ton chemin, c'est pas du tout les études et tout. Je crois tu dois faire la musique. Et de ce jour-là, il m'a soutenu.
Oui, soutenu, oui.
Soutenu donc pour moi c'était hors de question de en fait c'était clair que je vais faire la musique.
OK. Et donc qu'est-ce qui fait que comment tu fais pour te retrouver c'est quoi le chemin qui t'amène à sortir ton premier album?
C'est un chemin incroyable parce que c'était un chemin c'était plutôt on peut pas dire c'était un chemin on peut plutôt dire que c'était un labyrinthe. Parce que il y avait beaucoup des comment je dis ça dead ends, les chemins où il n'y a plus...
Des impasses.
Oui,
ouais.
Il y avait beaucoup des impasses. Et parfois, même des moments où j'ai rappelé mon père et j'ai dit « Ok, je reviens à l'école, j'ai fait une erreur, ce n'était pas une bonne idée. » Mais c'était mon père qui a dit « Non, tu ne vas pas revenir à l'école, tu restes et tu te battes pour tes rêves, tu vas réussir. » Mais parfois, en fait, ça a commencé comme ça, j'ai chanté toujours, j'avais des amis qui étaient des DJ et tout ça qui sont me demandé tu veux pas chanter sur une festival un peu une festival des villages quoi où tu peux chanter un peu. J'ai dit OK d'accord, je le fais. Après j'ai rencontré des producteurs qui s'ont dit OK, on va faire un disque mais c'était des producteurs qui c'est mon papa qui m'a toujours ramené à un endroit qui s'appelle c'est en Allemagne, cet endroit ça s'appelle Kastrop Rauxel et c'était un endroit c'est le nom déjà, c'est tellement bizarre qu'à un moment, il avait une commerciale dans les télés, un commercial de PlayStation, qui a dit, qui a parlé de Castrop-Rauxel parce que personne ne connaît Castrop-Rauxel. Et j'ai dit, ah, c'est marrant, Castrop-Rauxel, c'est là où, on est, où je suis dans les studios avec les producteurs. Mais les producteurs de Castrop-Rauxel, ils étaient très gentils, mais ce n'était pas du tout la musique que je voulais faire. C'était vraiment très pop et sans dire rien grave sur ça, mais ce n'était pas du tout... Je ne me sentir pas bien avec ça. Et donc, j'ai dit, OK, je ne peux plus travailler avec eux. Et mon père, il était un peu fâché. Il était un peu déçu parce qu'il a dit, mais tu ne peux pas brûler des ponts comme ça. Et, ma famille, ils ont toujours pensé que j'ai brûlé des ponts et j'ai commencé quelque chose et je ne finir pas. Et j'ai expliqué à mon père que j'avais envie de faire quelque chose du bien et pas... quelque chose que je me retrouve pas, je sens que c'est pas vraiment moi. Et donc c'était vraiment des passages comme ça. Après j'arrêtais avec les producteurs, j'ai pensé que je vais revenir à l'école. J'ai essayé de revenir à l'école, j'ai fait l'école la nuit. Il y a un programme, je crois que ça existe en France aussi. Okay. C'est où on fait l'école
les cours du soir,
les cours du soir. Okay. Exactement. Okay. Je me retrouvais dans les classes, les cours d'histoire. J'étais même trop jeune pour le faire. Mais le directeur, ouais. Il a fait une
exception.
Une exception. Merci beaucoup. Voilà. Il avait une exception et il m'a laissé faire les études avec l'autre. Et là, j'ai arrêté après 4 mois. J'ai arrêté encore et j'ai dit OK. Je vais recommencer avec ma musique et tout. Et j'ai rencontré une manager. Et je sais même... c'est incroyable parce que je ne me souviens même pas. Je crois qu'il a...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
J'ai entendu un de mes démos.
Ok.
Je crois c'était connecté au producteur avec qui je travaillais avant.
Okay.
Oui, j'étais sur un festival encore sur la rue et je l'ai rencontré là. Et il m'a parlé et je lui donnais le numéro parce qu'il n'avait pas de...
De portable
Non, pas encore. Et je crois qu'il n'avait pas... j'avais pas de portable. C'est clair que j'avais pas de portable. Et je lui donnais le numéro de mon papa. Et donc, il a rappelé et tout... On est parti pour lui rencontrer et c'est là, c'est de là-bas où tout a commencé. Et je suis partie en Hambourg, j'ai quitté la maison pour vivre en Hambourg et j'ai signé mon premier, c'était même pas avec une maison disque, c'était un contrat comme écriveur des chansons.
Ok.
Publishing deal. Et avec ça, avec cet agent, je m'achetais ma première guitare. Et je fais un voyage. Je suis voyagée en Tanzanie, en Zanzibar. Et j'écris des chansons et tout. Et c'est de là-bas que tout a commencé. Je suis revenue de Zanzibar et j'écris les chansons Without You. J'écris Down on My Knees. Help is Coming. Toutes les chansons-là, c'était à cette époque. Oh, Life is Real. Help is Coming, c'était pas encore là. Mais toutes les chansons de mon premier disque.
Ok.
J'ai commencé à écrire.
C'est passé quoi à Zanzibar en particulier?
Pas grand chose, mais j'étais juste dans un bon endroit et j'avais envie de je sais pas, j'étais jeune et j'ai passé un bon moment là-bas. Et après, c'est marrant parce que c'était vraiment après ça, je suis revenue. Quand j'étais en Hambourg, j'avais un appartement, mais à un moment, j'ai quitté cet appartement pour vivre avec d'autres musiciens dans une grande maison, avec plusieurs appartements. Et j'ai vécu avec deux amis à moi. On était tous des musiciens. Et c'est là où j'écris les chansons Down on My Knees. Et après ça, après cette chanson, le reste, c'est vraiment que j'ai rencontré... je suis partie de Hambourg pour... J'ai quitté Hambourg pour vivre en Londres. Je suis partie à Londres.
Ouais.
J'ai resté avec ma tante, ma cousine, et j'ai joué dans plein des bars différents à Londres. Et à un moment de Londres, c'est un ami à moi qui a dit, elle va faire une défilé à Paris si je voudrais bien être mannequin et jouer une chanson. Et j'ai dit oui, bien sûr, c'était ma meilleure copine. Et j'ai dit bien sûr, je l'ai fait. Et donc je suis arrivée à Paris, je voulais faire, je voulais chercher l'endroit où elle défilait et j'étais en retard. J'ai raté la défilé, mais j'étais là pour jouer.
Okay.
Donc je suis venue et j'ai joué la musique. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé si je voulais pas rester un peu à Paris et faire des dates à Paris, des petits trucs avec lui. Et j'ai dit, ah, ça serait magnifique. Et donc, là, à un moment, je me retrouvais, je faisais la première partie pour Titoff.
Ok.
Comédien français.
L'humoriste, oui.
L'humoriste, ouais. Qui était magnifique, qui m'a toujours soutenu aussi, ouais. Incroyable. Après, je faisais la première partie pour Dieudonné à l'époque.
Okay.
Après, j'étais invitée par une télé, je ne me souviens même plus quelle télé, mais c'était parce que c'était comme surprise pour Titoff qui aimait bien quand j'ai chanté les chansons, je crois que c'était Sometimes It Snows in April,
okay.
De Prince. Et il aimait bien Down on My Knees. Et donc, les gens sont se demandaient, mais c'est qui cette fille? Elle n'est pas signée, personne ne connaît. Après, c'était Radio Nova.
Ouais.
C'est Aline qui a fait son émission sur Radio Nova qui m'a invitée toujours pour jouer les chansons live. Et donc, les gens pourraient juste m'entendre live,
ouais.
Dans la radio parce que j'avais pas de disque, j'avais pas de maison de disque,
ouais.
J'avais rien. Juste ma guitare, c'était la fille avec la guitare. Et donc, à un moment, j'ai eu les deux premières pages de culture dans le Télérama.
Wow.
Et je sais que c'est très...
Et t'avais toujours pas de disque.
Toujours pas de disque, rien. Pas de maison de disque, pas de rien.
Pas mal.
Et là, c'était, cet jour-là, c'était un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Alla, qui aujourd'hui est mon manager,
ouais.
Qui a eu cette... Il a attendu le Télérama parce qu'un de ses artistes d'avoir être dedans.
Mm.
Et il a ouvert le magazine et il a vu... Ah oh, mais c'est de double page, c'était moi avec une afro en pose karaté. Il s'est dit, mais c'est qui cette fille? Et donc, il a déjà entendu de moi parce qu'on a déjà parlé. En plus, on a déjà parlé avec lui, je crois, à cette époque. Et là, il me voit dans la télé. Mais pour lui, je crois que c'était comme une signe. Et donc, à un moment, l'histoire, c'est que j'ai signé avec lui à 23 ans. Et donc... depuis après ça, le reste c'est le premier disque qui est sorti, mais il y a encore d'autres histoires dedans. C'était vraiment, on peut dire que c'était vraiment pas facile. C'était une longue chemin. Et les gens s'en pensaient toujours que c'était un succès très vite, mais c'était pas tellement vite parce que le premier disque est sorti, toutes les chansons sur le premier disque, c'était déjà... Pour moi, c'était déjà 6 ans,
oui.
Que j'ai vécu avec ces ouais. chansons-là. Et donc, quand Jean-Philippe il m'a signé, après ça, c'est une histoire incroyable. Parce que j'ai eu mon fils, mon premier-né, à 25 ans. Et donc, là, c'était un peu difficile parce que... je dois enregistrer mon disque et tout. Donc, il avait toujours des obstacles, un peu, mais c'était, en fin de la journée, c'était pas des obstacles, c'était, je crois, c'était des bénédictions pour faire que je serais vraiment prêt pour...
Oui.
En fait, parce que j'étais pas prêt, peut-être. Et là, il avait plein des obstacles et plein des situations difficiles, mais...
Il y a un moment où c'est devenu plus clair, c'est ça?
Ouais, exactement, exactement. Et après, c'est peut-être, je peux dire, la première disque est sortie et là, c'est là où je me retrouve et je fais mon premier grand télé, Taratata, avec Nagui. Mm. Et après ça, c'était une histoire, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable parce que je suis partie au magasin pour acheter mon disque à moi-même. Parce que tu sais, c'était mon premier disque et c'était comme une rêve. Je croyais même pas que c'était vraiment, elle est vraiment sortie, le disque, on dit, que le disque est vraiment sorti. Et donc pour croyer vraiment que c'était vraiment, le disque était vraiment sorti, je suis allée dans une Fnac. Et en plus, c'était le Fnac Châtelet-Léal. La fameuse Fnac. Attends, non. C'était le Fnac Place d'Italie.
Ok.
Ah, c'était Place d'Italie. Je suis allée dedans.
Ouais.
Et il n'y avait pas de disque. J'ai pas trouvé de disque.
Il était pas là.
C'était vendu. Everything was gone.
Tout, oui.
Tout était pris.
Sold out.
Ouais.
Bah ça, c'est cool.
Elle a dit, les disques sont finis. Et là, j'étais comme ça. J'ai dit, oh, c'était incroyable. Et elle m'a dit, peut-être dans un autre magasin, un autre Fnac. Et c'était incroyable.
Et donc, après, en fait, tu avais tellement eu de couverture des médias avant, ouais, que ton album était très attendu, quoi.
Ouais, ouais. Et je crois que c'était vraiment ça. Et c'était surtout le Taratata, je crois, qui avait cet effet. C'était vraiment... parce que Nagui, il m'a quand même invité avant le disque est sorti.
Ouais.
Le disque n'était pas encore sorti et il m'a invité, donc...
Il aime beaucoup ça, voir des artistes, des jeunes artistes faire découvrir, quoi.
Ouais, ouais. Okay.
Ah, j'ai plus trop de temps.
Je parle trop lentement maintenant, je vais pas parler très vite maintenant.
Non, mais non, t'inquiète pas. t'as nommé le dernier, ton troisième album, tu l'as nommé comme ta fille,
ouais,
c'est ça, comme le prénom de ta fille.
Exactement.
Pourquoi t'as fait ça?
Parce que pendant j'enregistrais, j'étais enceinte avec elle et je savais déjà que à cette époque, je savais déjà que en fait, je voulais la donner le nom Belief.
Ok.
Mais c'était pas possible quand elle était née. Ils se sont dit non, tu peux pas donner Belief parce que ça n'existe pas,
c'est ce nom.
Et donc j'ai fait Billy If.
Et hop.
Parce que Billy, c'était mon première guitare.
Ah ouais?
Oui, tu lui donnais le nom Billy. Eve, pour moi, Eve, c'était la première femme dans la Bible. Et les deux mots ensemble, ça fait Billy F. Et après, Billy aussi pour Billie Holiday, une chanteuse que j'adorais beaucoup. Et donc, je me suis dit, ok, c'est Billy F.
Et voilà.
Et voilà, exactement.
T'as aussi rappé avec Youssoupha. C'était quand? C'était en 2015, 2016, c'est ça, non?
2015, je crois, 2015, ouais.
Qu'est-ce qui t'a arrivé? Pourquoi?
Sur le disque de Youssoupha, non?
Oui.
Ah oui. En fait, c'est une histoire que Youssoupha, il était sur mon chanson.
T'avais jamais rappé avant ça?
Oui. Oui, en fait, oui. Avant, je chantais, j'étais rappeuse.
Ouais.
Mais après, quand j'ai fait sortir mes disques, les gens connaissaient juste la fille avec la guitare qui chante et eux savaient pas que, en fait, ils savent pas que j'ai rappé avant, j'ai chanté. Et donc, quand j'ai invité Youssoupha pour faire me joindre sur les chansons Fire, il m'a demandé une seule chose en retour. Et je lui ai demandé, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il a dit, je veux rien, je veux juste une chose. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Il a dit, je veux 8 bars en rap sur une chanson à moi. Parce qu'il aime beaucoup quand je rappe. Et j'ai dit, ok, d'accord. Et c'est comme ça que c'est passé.
Il y a toute une histoire justement avec le rap. J'ai pas entendu. J'ai vu une interview où tu disais que c'était ton compagnon à l'époque qui disait qu'il fallait pas que tu rappes.
Ouais. Il a dit que c'était pas bien du tout, c'était trop old school. C'était trop old school. Et j'ai dit, mais non, ça sera plus comme ça. Mais heureusement, je dis pas faire confiance parce que. À cette époque, je crois, dans ma tête, je me dis, oui, parce que toi, tu sais pas rapper, tu veux pas que je rappe non plus. C'était un peu, je pensais un peu comme ça, mais je n'ai dit rien. Et je le fais quand même. Parce que pour moi, c'était un peu comme, si Youssoupha me dit que, si Youssoupha aime mon rap, je m'en fiche de qu'est-ce que toi tu penses, parce que Youssoupha, c'est le rappeur, c'est pas toi le rappeur. Et donc, heureusement, j'ai pas écouté. Mais oui, c'est vrai, il a dit non, tu dois pas faire et tout. Et après, à un moment, je me dis aussi, mais comment on peut dire aux gens c'est old school, je sais pas quoi, parce que moi, le rap que moi j'aime, c'est la façon 90. J'adore Nas, j'adore Talib Kweli, Mos Def, j'adore J. Cole, qui est une nouvelle génération, mais qui est quand même, qui rappe quand même comme un Nas ou je sais pas, une Mos Def. C'est vraiment cette façon. Kendrick Lamar aussi, Kendrick Lamar, c'est esprit ancien. C'est pas le nouveau rap. Pour moi, ça, c'est vraiment. Kendrick Lamar aussi, pour moi, c'est 90. Même si c'est nouvelle génération, mais ça reste. C'est cool, quoi.
Qu'est-ce qui t'amène à faire ce nouvel album, à sortir ce dernier album, là?
C'est Royal,
on l'a pas dit. Ça.
Ouais. En fait, oui, c'est Royal. Et c'est, je peux dire aussi, ça n'a rien à voir. Parce que parfois, les gens me demandent pourquoi c'est Royal. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent quand on entend ce mot Royal, on pense directement la reine, le roi, je sais pas, majestique et tout, mais c'est pas du tout ça. En fait, je voulais pas du tout dire que je suis la reine de soul ou R&B ou je sais pas quoi, pas du tout. C'est vraiment, quand j'utilise ce mot royal, je parle de Dieu, sans lier ça à aucune religion. Parce que si je donne le titre Dieu à mon disque, on va directement penser que c'est un disque du gospel, elle est chrétienne, ou je sais pas quoi. Et je voulais pas ça, je voulais pas, parce que c'est pas important, qu'est-ce que c'est ma religion. C'était pas ça ce qui était important pour moi. Pour moi, c'était important de m'adresser à Dieu. Et je crois que, la source, pour nous tous, n'importe quelle religion, on peut être un musulman, chrétien ou bouddhiste, c'est toujours la source, c'est toujours la même. Je crois il y a une Dieu, il y a n'importe une Dieu, une, je sais pas quel nom on peut donner, mais c'est d'abord tous, c'est la source royale. Et cette source, pour moi, c'est ça, c'est pour ça que je dis royal. Et on peut pas, pour moi, je ne crois pas que on peut être des reines ou des rois. Je ne crois pas à ça, parce que ça, c'est l'ego qui porte couronne.
Une couronne, oui.
C'est l'ego. On n'a pas besoin de je sais pas, d'une couronne. Parce qu'on est humain, on est d'être humain, on fait plein d'erreurs. Même les rois, là, on voit les rois en Belgique. C'est un roi, mais il a eu une bébé, il a dit que c'était pas sa fille et tout, et maintenant tout le monde sait que c'est sa fille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On montre qu'on est des êtres humains, on est loin d'être parfait. Ça n'existe même pas, je crois. On peut pas être parfait. C'est ça ce qui est peut-être parfois même, en fait, c'est ça ce qui nous fait humains. On est des êtres humains. Et je trouve que c'est important que pour moi, c'est important d'être croyante, d'avoir l'espoir, la foi, la lumière, l'amour. Pour moi, tout ça, c'est Dieu. Tout ça. Et si on avait plus de ça dans ce monde, et moins de séparation, et moins de... je peux dire que cette contrôle, tout le monde veut contrôler quelque chose, ça c'est pas bien quand on dit les chrétiens sont mieux que les bouddhistes, ou les bouddhistes sont mieux que les musulmans, je sais pas, je crois ça, tout ça, je crois c'est horrible, et c'est tout ça, c'est on perd l'énergie, et j'ai dit l'énergie parce que je crois Dieu, c'est l'énergie, c'est une énergie incroyablement fort, avec beaucoup de pouvoir. Et si on croit à ça, je crois que c'est la seule façon de réussir, d'avoir la paix un jour, peut-être. Je crois que c'est la seule façon de dire que si demain, on peut dire que okay, toutes les religions, tout est accepté. Dans les religions, nous-mêmes, on ne dit pas que juste parce que moi, j'aime bien Jésus, ça ne veut dire pas que je n'ai pas de respect pour Mohamed. Quoi. C'est ça ce que je veux dire. C'est, si on est plus dans cette lumière, parce que pour moi, je dis ça, c'est d'être dans la lumière,
oui.
De savoir des bonnes choses dans toutes les religions, de se dire, OK, le chemin, on fait de la journée, cette chemin, en fin de chemin, il y a le même Dieu.
T'as vu Messiah ou pas?
Non.
Sur Netflix?
Non.
C'est une série?
Oui.
Alors moi, j'ai été élevé dans une éducation catholique.
Oui.
Je m'en suis un peu retiré, si tu veux.
Ouais.
Mais donc j'ai un rapport à la religion qui est un peu compliqué.
Ouais.
Et cette série, c'est génial. C'est une série qui met en scène une sorte de messie. Et
oui.
En fait, c'est un peu... Il fait des trucs... il fait des miracles.
Oui.
Et donc, t'as plein de gens qui croient au miracle et il amène plein de croyants, si tu veux, qui
oui.
le suivent et qui disent c'est le Messie. Et à côté de ça, t'as des gens plus sceptiques et qui disent
ouais.
bah, c'est pas possible que ce soit le Messie, c'est forcément, il ouais. est aidé.
C'est une sorcière.
Voilà.
Je sais pas.
Je t'invite à regarder si tu veux parce que ça
ah,
m'a.
Il faut que je regarde.
Ça m'a beaucoup. C'est 8 épisodes.
8 épisodes, c'est incroyable, c'est bien.
C'est vachement bien, ouais.
Les messieurs.
Et ça parle de religion et en fait justement ça parle pas de Dieu, il se réclame d'aucun Dieu, tu vois.
Oui, ouais.
Il dit juste bah moi je viens pour parler pour Dieu. Mais alors tu es ouais. quelle religion? Pas.
Non,
il ouais. parle pas.
Mais oh c'est incroyable ça.
Je trouvais que c'était très cool.
Et je crois que il faut que je les regarde parce que ouais. parce que moi je crois que c'est vraiment en fait la religion ça peut être bien.
Bah oui.
Si c'est pas mal interprété, ça veut dire que
donc, c'est souvent les hommes qui font n'importe quoi.
Exactement, exactement, ouais. C'est ça. Parce que c'est bien d'avoir une cadre, d'avoir la discipline, tout ça pour apprendre d'être focus et tout ça. Je crois que c'est très important pour les enfants. C'est bien aussi de donner quelque chose qui apprendre, de partager, d'être bien, de bonnes choses, de faire du bien aux gens, de faire pas de mal et tout. Je crois que l'idée, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est important aussi, oui, mais c'est plus important d'apprendre le respect d'abord,
ouais.
et de pas juger. Et je crois c'est ça en fin de la journée, qu'on est tous, on vient tous du même endroit.
On va s'arrêter là-dessus, c'est trop beau comme phrase. On vient tous du même endroit.
Oui.
Merci pour toutes ces anecdotes,
merci.
Ayo. C'était super d'avoir raconté ton histoire.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Trop bien. Je pourrais dire, on est tous nés quelque part.
Exactement.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.